Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous propose une histoire vraie, mais qui semble tout droit tirée d'un roman de Simenon. Un jour en 2010, à Ménil-le-Roi dans les Yvelines, on retrouve la patronne de l'hôtel du Clos des Roses assassinée. Cette nuit-là, dans l'hôtel, il y avait 10 clients. Lequel d'entre eux est l'assassin ? La dame de la chambre 5, le monsieur de la chambre 9, ou bien celui de la chambre 6. Pour le débrief, maître Cathy Richard sera là. Elle était avocate de la partie civile au procès. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Allô ? Marc, c'est moi, chérie. Tu m'entends? D'accord. Écoute, je viens de terminer de compter ma caisse. Le temps de fermer et je me mets en route. Hein? À tout de suite, mon amour. Cette femme qui vient de raccrocher avec Marc, son compagnon depuis 25 ans, s'appelle Nathalie Villarmé. Nous sommes le 14 octobre 2010, il est aux environs de 20h et elle s'apprête à quitter le Clos des Roses, l'hôtel, bar, tabac, restaurant qu'elle tient au Ménil-le-Roi dans les Yvelines. C'est un bistrot de village, hein, où on vient aussi bien pour acheter ses cigarettes, boire un café, jouer aux fléchettes ou faire son loto. Et puis à côté, il y a l'hôtel, 11 chambres. Il n'y a pas grand-chose d'autre au Ménil-le-Roi. Le Clos des Roses, c'est un peu le cœur du village. Et tout le monde connaît forcément Nathalie. Et donc, il est 20h, et elle dit qu'elle ne va pas tarder à rentrer. Sauf que la soirée passe, et Marc ne la voit pas arriver. Il se dit qu'elle a eu un contretemps, dans un hôtel, ça arrive. Alors il se couche, et il s'endort comme une souche. Le lendemain matin, Nathalie n'est pas dans le lit et elle n'est pas non plus sur le canapé. Marc essaye de l'appeler.
Messagerie Orange, bonjour.
Pas de réponse. Alors il va voir les gendarmes qui enregistrent immédiatement un signalement pour disparition inquiétante. Et les mêmes gendarmes viennent voir Marc quelques heures plus tard avec leur tête des mauvais jours. Monsieur... Nous avons retrouvé votre compagne. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, monsieur. Madame Villarmé, Nathalie, est décédée. On l'a découverte dans la forêt de Marly, à Saint-Nom-la-Bretèche, soit à une dizaine de kilomètres du Ménil-le-Roi. C'est un ramasseur de champignons qui l'a trouvée morte, cachée sous des branchages. Et monsieur... Je dois vous dire que ça n'est pas un accident et que tout laisse à penser qu'il s'agit d'un meurtre. Tout laisse à penser. En vérité, il n'y a aucun doute. On l'a retrouvé les mains attachées dans le dos avec une ceinture et le crâne défoncé. L'autopsie montrera qu'avant les coups sur le crâne, on a essayé de l'étrangler. En vérité, elle a été massacrée. Et a priori, ça ne s'est pas passé dans le bois. Ça s'est passé ailleurs. Le procureur désigne les gendarmes de la section de recherche de Versailles pour prendre l'enquête en main. Bon, d'après ce que dit le compagnon, donc elle avait un véhicule de type Renault Kangoo qui a disparu. Donc il dit aussi qu'il manque son sac à main. Et puis la caisse du jour. Tout ça, franchement, ça nous laisse penser que c'est un cambriolage qui a mal tourné. Hein. Peut-être. Mais enfin, la caisse du Clos des Roses, c'est pas les coffres de la Banque de France. Hein. D'autant qu'aujourd'hui, la plupart des clients payent en carte de crédit. Est-ce qu'on peut massacrer une femme à ce point-là juste pour lui piquer son sac à main et sa caisse ? Ça paraît fou. d'entrée. Un peu comme dans les bons vieux Simenon, les gendarmes focalisent sur les clients de l'hôtel. Moi, je pense qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient savoir qu'elle avait sa caisse sur elle, hein, ce soir-là. Et en plus, quand tu connais le profil des clients de cet hôtel, t'as plus beaucoup de doutes, non? Ah oui, ça je ne vous l'ai pas encore dit. L'hôtel du Clos des Roses, c'est pas un hôtel de tourisme. Et ça, les gens du village s'empressent de le raconter aux gendarmes. Oh ben c'est un hôtel de cassos, hein, cet hôtel. Il y a que des gens qui sont envoyés par les services sociaux. C'est vous dire les gars que c'est, hein. Et ça, c'est vrai. Certains clients habitent l'hôtel depuis des années. Attention, hein. Jusque-là, ça se passait bien. Mais peut-être effectivement que l'assassin est un résident de l'hôtel. Bon, on fait le point. Dans l'hôtel, il y a 11 chambres, hein. Et le soir du meurtre, je me suis renseigné, il y avait 10 clients à dormir. Donc, ça nous fait 10 suspects. Je crois qu'il faut qu'on les interroge un par un, hein. On n'a pas le choix. Dans la chambre numéro 5, par exemple, loge Véronique. Nathalie était son amie et elle l'a vu partir le soir du meurtre. Ah ben oui, j'étais à la fenêtre. Et je l'ai vu partir avec Patrice. Elle conduisait et lui, il était à côté. C'est qui, ce Patrice? Ben, Patrice, de la chambre 6. Les gendarmes vont donc toquer au numéro 6. On nous a dit, monsieur, que le soir du crime, vous êtes parti en voiture avec Madame Villermé. C'est vrai? Je m'attendais à ce que vous veniez m'en parler. Mais c'est pas ce que vous croyez. Comme j'ai pas de voiture, eh ben, m'a juste déposé, quoi, chez ma copine à Poissy. Bon, après, elle est partie. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé après. Hein. Elle vous a déposé où, exactement? Moi, je vous l'ai dit. Chez ma copine. Elle s'appelle Élise. Vous pouvez vérifier. Hein. Elle vous dira que j'ai passé la nuit chez elle. Hein. On vérifie. Et a priori, il n'a pas menti. Élise dit que Patrice est arrivé à 21h et qu'il est reparti à 5h30 le lendemain matin. Et puis Patrice a un autre argument, un argument de poids. Nathalie lui fournissait un toit depuis 2 ans. Et en même temps, de temps en temps, des petits boulots à l'hôtel. Sans elle, il est à la rue. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. À 47 ans, il a fait tous les boulots de la terre, d'agent immobilier à chauffeur-livreur. Il a essuyé 2 divorces et il vit loin de ses 2 enfants. Il a passé 6 mois dans le coma après un accident de voiture. Et aujourd'hui, après une longue rééducation, il se remet qu'à un quart, grâce à Nathalie Villermé. En revanche, sur qui a pu faire le coup, il a sa petite idée. « Oh ben si j'étais vous, j'irais voir s'entraîner le client de la chambre 9. Hein. » Le client de la chambre 9, c'est Fabrice. Fabrice fait partie des murs. 8 ans qu'il est là. Et d'après ce que dit Patrice de la chambre 6, c'est un ivrogne qui, quand il a bu, peut être très violent. Bon, il n'y a pas longtemps, il s'était pris la tête avec Nathalie. Je crois bien qu'il lui avait même collé une gifle. Oui, monsieur, une gifle. Et ça ne s'est pas passé il y a 6 mois. Ça s'est passé quelques jours avant que Nathalie ne soit assassinée. Et puis, il y a un truc que vous devez savoir, hein, concernant ce Fabrice, là. C'est un voleur, le gars. Il a déjà piqué dans la caisse de l'hôtel. Et Nathalie l'a obligé à rendre l'argent. Allez le voir. Moi, j'aurais bien que ça lui. Il est donc temps d'aller frapper au numéro 9. Le loustic se montre à la hauteur de sa réputation. Il se met à gueuler comme un veau. « Oh, j'ai rien fait, putain! C'est pas moi! J'ai jamais volé personne, moi! » C'est pas ce qu'on nous a dit, monsieur, hein? On nous a dit que vous aviez tapé dans la caisse, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'elle vous avait obligé à rembourser. Oh! Eh ben, c'est pas vrai, hein? C'était sûrement une erreur de caisse. En tout cas, c'était pas moi. C'était des mensonges de m'accuser de ça. Vous étiez où, la nuit du crime, monsieur? Ben, j'étais à l'hôtel. J'ai pas bougé. Les gendarmes vérifient la localisation de son téléphone portable. Effectivement, a priori, il n'a pas bougé de l'hôtel. Pendant ce temps-là, évidemment, les gendarmes ratissent en long, en large et en travers le bois de Marly, le bois où on a retrouvé le cadavre. Et à quelques centaines de mètres, ils tombent sur une bûche qui porte des traces de sang. Je crois bien qu'on a retrouvé l'arme du crime, hein. Faut l'envoyer au labo. Dardard, hein. Et le labo ne tarde pas à répondre.
Le sang sur la bûche, là, que vous nous avez transmise, est bien le sang de Villermé Nathalie.
Vous en êtes certain, hein?
Oui, oui, j'en suis absolument certain.
La bûche est donc l'arme du crime. Ce qui est bien intéressant, c'est que sur cette bûche, il y a un autre ADN que celui de Nathalie Villermé. Un ADN d'ailleurs que l'on retrouve aussi sur la ceinture, qui lui liait les mains dans le dos. Et donc c'est probablement l'ADN du tueur. Il n'y a plus besoin de faire le tour des chambres une par une. Il n'y a qu'à prélever l'ADN de tous les clients de l'hôtel et comparer à l'ADN de la bûche. Et là, ça va très vite. Parce que dans certaines enquêtes, vous pouvez attendre des mois et des mois le retour d'une analyse ADN. Mais cette fois-ci, ça va à la vitesse de l'éclair.
Bon, nous avons retrouvé un ADN qui matche avec celui qui a été retrouvé sur la bûche.
Très bien, et c'est l'ADN de qui ?
Chevalier Patrice.
Patrice Chevalier, l'occupant de la chambre numéro 6. Vous savez, celui qui est parti avec elle en voiture le soir du crime. Celui qui était soi-disant chez sa copine Élise. Celui qui doit tout à Nathalie. Celui qui a dit qu'elle lui avait sauvé la vie. C'est son ADN qui est sur la bûche et sur la ceinture. Immédiatement placé en garde à vue, Patrice Chevalier a une explication pour l'ADN sur la bûche. Bah, pendant qu'on roulait là, avec Nathalie vers Poissy, eh ben à un moment, ben, il y a une branche, elle s'est coincée dans la roue. Et du coup, je suis descendu de la voiture pour l'enlever. Et comme j'y arrivais pas, eh ben je me suis aidé d'un bout de bois là, que j'ai trouvé au bord de la route. Et après, ben, comme j'avais ce bout de bois, ben Nathalie, elle m'a dit garde-le pour le feu dans la cheminée de l'hôtel. Bah, c'est pour ça, hein, qu'il y a mon ADN sur la bûche. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Il y a le sang de Nathalie sur cette bûche, crétin. C'est l'arme du crime. Et pour la ceinture, alors? Pourquoi retrouve-t-on son ADN sur la ceinture qui ligotait le cadavre de Nathalie? Une explication, peut-être? Bah, premièrement, faut que je vous dise. Je couchais avec Nathalie. Ah, vous savez, moi, les femmes, elles craquent pour moi. C'est comme ça. Alors avec Nathalie, ben, ça a été pareil. Elle voulait m'avoir, ben, elle m'a eu. Et donc je dis, ben, on a fait de la peinture pour peindre une pièce de l'hôtel. Et comme Nathalie, elle a fait un tout petit malaise, ben, je l'ai rattrapée pour pas qu'elle tombe, quoi, de l'escabeau. Et du coup, je l'ai rattrapée par les hanches, quoi. Et j'ai dû toucher sa ceinture. Voilà pourquoi. Quelle imagination! Il dit même qu'après, elle est venue se frotter à lui et qu'ils ont failli coucher ensemble. Voilà pourquoi il y a son ADN partout. Le frotti-frotta. Ah, puis il y a autre chose que je vais vous dire. Et si elle couchait avec moi, Nathalie, faudrait peut-être se demander pourquoi. Hein. Son mec, là, Marc, il s'occupait pas d'elle. Il s'en fichait complètement d'elle. Ce qui est une manière de suggérer aux gendarmes de s'intéresser à Marc. Ce qui n'est pas idiot. Les gendarmes le placent sur écoute.
Allô? Ouais, ça va? Quand est-ce que tu veux qu'on se voit, Marc? Oh bah écoute, moi pendant 19 ans, je me suis déplacé jusqu'à Versailles. Bah alors maintenant, c'est à toi de te déplacer, hein, si tu veux me voir. Ok, je me déplace. À demain, mon amour.
Marc a une maîtresse, Claudine. Et ça a l'air de durer depuis un bout de temps. 19 ans, manifestement. Vous la connaissez, l'histoire du mec qui tue sa femme pour filer le parfait amour avec sa maîtresse? C'est un classique du crime. Marc est immédiatement entendu par les gendarmes.
Oh, c'est pas ce que vous croyez.
Claudine, c'est une amie. Ça va pas plus loin. Alors c'est vrai que c'est une amie intime, qui était très proche de nous. Mais Nathalie, elle était au courant de tout ça. Elle avait rien contre. Vous maintenez donc qu'il n'y avait aucun problème de couple entre vous. Écoutez, il y a quelques semaines, on est partis en vacances tous les deux. C'était comme notre voyage de noces. On avait même parlé de se marier. Je vous jure qu'avec Nathalie, c'était le bonheur. Ce que tout l'entourage du couple confirme. On en revient donc à la chambre numéro 6, à Patrice Chevalier. Patrice Chevalier, jusqu'ici, s'est défendu avec un argument tout simple. Nathalie Villermet était sa bonne fée. Bah, sans elle, je serais SDF, hein. Quel aurait été mon intérêt à la tuer? Sauf que les gendarmes pulvérisent du Blue Star sur son blouson. Vous savez, le produit qui révèle les taches de sang. Il y en a partout. Partout! Et puis, il y a le témoignage de Nora, la meilleure amie de Nathalie. Oh, mais ces dernières semaines, il était de plus en plus relou avec elle. Il lui faisait des avances tout le temps. Il était insistant tout le temps. Et puis, il avait des gestes déplacés. Elle était sur le point de le virer de l'hôtel. Moi, j'ai dit, tu peux pas garder un pervers comme ça. Pas chez toi. Il était question de virer Patrice de l'hôtel. Et là, c'est plus la même histoire. C'est plus la bonne fée. Était-il au courant qu'il était sur la sellette? Se sentait-il menacé d'être exclu du Clos des Roses? Se serait-il vengé? Quand les gendarmes ont fouillé la chambre numéro 6, ils ont saisi le téléphone portable de Patrice Chevalier. Bon, je vous conseille de vous asseoir parce que vous allez tomber de l'armoire. Hein. Vous savez ce que j'ai trouvé dans le portable de Chevalier Patrice? 50 photos volées, les gars. Et voilà les photos. Hein. Regardez celle-là. Le gros plan sur ses cuisses. Et là, gros plan sur ses seins. Et là, tiens, regarde. Gros plan sur ses fesses bien moulées dans son pantalon. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Matez-moi ça. Il a pris une photo de sa culotte, le con, sous la table. C'est un pervers, putain, le gars. Un gros cochon, oui. Patrice Chevalier est un obsédé sexuel. Il a une bite dans la tête, le gars. Un bon gros braquemar à la place du cerveau. Et ça se confirme quand les gendarmes interrogent son ex-femme, Sandrine. Ah ben vous savez ce qu'il faisait quand on était ensemble? Il enregistrait toutes les émissions des mariés de la 2 sur Antenne 2, sur des cassettes VHS. Et après, il se les repassait, juste pour mater les gonzesses. Il prétendait que grâce à l'arrêt sur l'image, il pouvait voir la culotte des filles. C'est un malade du cul, ce mec. Mais ça, madame, vous l'avez aussi constaté dans vos relations, je veux dire, vos relations conjugales. Si je l'ai constaté, il voulait qu'on baisse tous les jours, lui. Et après, il faisait une croix sur le calendrier pour dire ça y est, c'est fait. Et puis, il comptait combien de fois par semaine et combien de fois par mois. J'en ai connu, moi, des tordus du calbar. De grands malades de la bistouquette. Mais lui, il est phénoménal. Et c'est elle, Sandrine, son ex-femme, qui vient voir les gendarmes 3 semaines plus tard pour lui porter l'estocade. Bah, c'est quelque chose que je vous ai pas dit la dernière fois, parce que franchement, jusqu'ici, j'avais pas vraiment fait le lien. Mais le jour du meurtre, j'ai eu Patrice au téléphone. On a parlé un moment, c'était la première fois qu'on se téléphonait depuis 5 ans. Et puis le soir, son téléphone a rappelé. Il était quoi, 9h? J'ai décroché. Et j'ai vite compris que c'était un appel involontaire, qu'il avait son téléphone dans sa poche. Sauf que moi, au téléphone, bah, j'ai entendu des cris. Et j'ai entendu une bagarre aussi. Et ça s'est fini par des hurlements. Je me dis que peut-être, c'était le moment où il était en train de la tuer. Voilà. Tout désigne Patrice Chevalier désormais. Sauf qu'il a un alibi. Vous vous souvenez? Il a passé la soirée avec sa copine Élise. Et cette Élise a confirmé. Les gendarmes la convoquent à nouveau. Et elle reconnaît qu'elle a menti. Moi, j'ai fait ça pour le protéger, moi, Patrice, c'est bête, hein. Je regrette un peu. Mais il m'avait dit que ce soir-là, il allait faire un coup avec des copains. Et que s'il y avait un problème, bah, il fallait dire que il était resté chez moi toute la soirée, toute la nuit. Et qu'il était reparti que le lendemain matin. C'était comme un service que je lui rendais, quoi. Moi, je pensais pas qu'il pouvait faire quelque chose de grave. Enfin, d'aussi grave. Ben voilà. Il n'a plus d'alibi. Mais il y a mieux que ça. Vous avez noté qu'il a demandé à Alice de mentir avant le meurtre. Ce qui veut dire qu'il avait prémédité son coup. C'est un assassinat. Ça vaut perpétuité. Patrice Chevalier est donc évidemment réinterrogé sur le champ. Et bien entendu, il a une nouvelle parade. Oh bah je vais vous expliquer, hein. C'est pas compliqué, hein. Soir-là, si j'ai demandé à Élise de mentir, c'est parce que je devais aller régler une affaire à Honfleur avec 4 gars, pour un commanditaire. On est allé enlever un gars qui avait une dette. Voilà quoi. Et le nom de ce commanditaire? Oh ben ça, je vais pas vous le dire, évidemment. C'est trop risqué, hein, je suis pas idiot. Hein. T'es pas idiot, mon coco. Mais t'es pas non plus le couteau le plus aiguisé de la boîte. Elle ne tient pas, ton histoire. Pas une seconde. Tu veux savoir ce que pensent les gendarmes? Et nous aussi, d'ailleurs, pour le coup. Ils pensent que c'est toi qui as tué Nathalie. Et que ça s'est passé à peu près comme ça. Donc, à 20h30, ils montent dans la voiture de Villermé Nathalie, ok? En prétextant devoir aller à Poissy chez sa copine. Quelques minutes plus tard, bah, il l'étrangle avec l'écharpe qu'elle porte autour du cou. C'est à ce moment-là que son téléphone se déclenche dans sa poche, ce qui permet à son ex-femme d'entendre l'assassinat en direct. Donc après, bah, il la sort de la voiture, on sait pas où exactement, et puis il la somme d'un coup de bûche. Là, elle s'écroule, donc il la met dans le coffre de la voiture, il roule vers la forêt de Marly, il balance le corps dans la forêt, et puis il jette la bûche. Moi, je pense que ça s'est passé à peu près comme ça. Et je crois qu'il va avoir tout le temps de regarder les mariés de la deux en prison, le gars. Ben n'importe quoi. Ça existe plus depuis longtemps, hein, les mariés de la deux. Ça existe plus depuis au moins 20 ans. Ah bon? Je savais pas, moi, je regarde jamais la télé. Et voilà pourquoi Patrice Chevalier est arrêté, mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. La première chose que fait Patrice Chevalier quand il arrive en prison, c'est d'écrire une lettre à Marc, le compagnon de Nathalie. Marc, je te donne mes condoléances à toi et à tes enfants. Je suis de tout cœur avec toi. J'ai rien à voir avec cette horreur. Je pense que tu sais que j'étais très attaché à Nathalie et que je lui aurais jamais fait de mal. Je pense à toi et j'espère que tu tiens le coup. Patrice. Pinocchio! Même si honnêtement, parmi les clients de l'hôtel, il y en a qui ont un peu de mal à croire que c'est lui l'assassin. Bah lui, il était si jovial. Il était si amical. Il devait tellement à Nathalie, tellement. Son logement depuis 2 ans, son travail. Et maintenant, il a tout perdu. Même sa liberté. Je comprends pas pourquoi. Franchement, ça me dépasse. Pourvu qu'on ait la réponse au procès. Le procès de Patrice Chevalier s'ouvre en novembre 2013 devant la cour d'assises de Versailles. Sur le banc des parties civiles, il y a Marc et les 2 enfants qu'il a eus avec Nathalie. Le premier jour, il n'est pas question des faits, mais de la personnalité de Chevalier. Sa vie sentimentale accidentée, marquée par 2 mariages et 2 divorces. Sa vie professionnelle chaotique. Sa dégringolade jusqu'à devenir chauffeur-livreur. Et cet accident de voiture qui l'a laissé handicapé. Et puis cet autre accident de voiture qui lui a valu un retrait de permis. Et dans la foulée, la perte de son travail. Il s'est retrouvé sans le sou du jour au lendemain, avec 800 euros par mois pour vivre. Cela dit, il ne cherche pas à pleurnicher sur son sort. Bah, je travaillais au Black, au Clos des Roses. Bah, du coup, ma chambre, elle me revenait à 50 euros par mois. Bah, avec mes 800 d'allocs, bah, ça allait, quoi. Je veux dire, il y a pas mal de familles qui auraient été contentes d'avoir ça. Étonnant personnage. Et ça se passe comme ça tout le procès. Tout le procès, il joue contre son camp. Il s'enterre un peu plus à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Par son inconséquence. Par exemple, la présidente de la cour d'assises lui présente les photos en gros plan qu'il a prises de Nathalie à son insu. Et lui, au lieu de faire profil bas, de reconnaître son obsession maladive pour Nathalie, il dit bêtement à la présidente: « Oh ben je sens que ça vous excite, hein ? Ça vous excite, hein, madame la présidente ?» Le con ! Une autre fois, interrogé sur les faits, il dit: « Ah ben je sais pas quoi vous dire, moi. Dans toute cette affaire, c'est un peu comme si j'avais mis un post-it avec mon nom sur la scène de crime. Je vais vous dire, si je devais commettre un crime, ben je prendrais mes précautions. » Eh oui ! C'est ça son système de défense. Intelligent comme je suis, je n'aurais pas laissé autant de preuves de mon crime. Et donc, je suis innocent. Je suis pas sûr que ça va marcher, mon coco. Au bout du procès, l'avocate générale requiert contre lui 30 ans de réclusion criminelle. Et finalement, les jurés ne vont pas si loin. Il condamne Patrice Chevalier à 20 ans de prison. Il s'en tire pas si mal. Et d'ailleurs, il ne fait pas appel. Ce qui est toujours étonnant pour quelqu'un qui nie. Maître Cathy Richard, vous étiez donc partie civile au procès, oui. C'est-à-dire donc l'avocat de Marc, le compagnon de Nathalie et de leurs deux enfants, c'est ça ?
Et aussi des parents de Nathalie et de sa sœur, qui était là extrêmement touchée par cette affaire.
Donc de toute
détruit même.
Donc de toute la famille. Je disais 20 ans pour assassinat, un assassinat qu'il n'a pas reconnu, il s'en sort pas si mal.
Pas si mal, c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas fait appel d'ailleurs. parce que après nous avoir crier son innocence pendant toute l'instruction et pendant tout le procès avec une arrogance, une suffisance. Enfin, celui qu'on appelait Petit Kir, parce qu'il faut savoir qu'il disait « Allez, encore un Petit Kir ». Donc, ouais. On surnommait Petit Kir. Hein. Il était surnommé Petit Kir. Il nous en a fait voir pendant toute l'instruction. C'est-à-dire qu'il avait cette espèce de don. À chaque fois qu'on trouvait un élément qu'il accusait de façon vraiment indiscutable, mais il arrivait à faire une petite pirouette et à trouver quelque chose. Alors, le bâton ensanglanté avec son ADN dessus. Ah oui, mais il l'avait pris pour dégager une branche qui s'était coincée
dans
ce soir-là.
Et il l'avait ramené pour faire du feu.
Voilà, et puis son ADN sur la ceinture qui attachait les mains dans le dos de la victime. Ah ben c'est parce que en réalité cet après-midi-là, elle avait bricolé, alors elle était sur une chaise, puis elle avait eu un petit malaise, il l'avait rattrapé par la ceinture.
Ouais.
Puis quand on lui dit qu'il y avait son ADN encore sur un préservatif dans sa... Ah ben oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est allé beaucoup plus loin cet après-midi-là en fait. Finalement, en réalité, elle lui a pratiquement sauté dessus. Alors qu'on se rend compte qu'il avait une véritable obsession pour elle. Ces photos qu'il prenait de sous la table, on voit que les photos, elles sont prises en dessous la table, on voit que la photo, elle est prise d'une fenêtre, alors que Nathalie est en train de fumer une cigarette assise dans la petite cour, il prend une photo par-dessus. Donc on voit que toutes ces photos, elles créent un vrai malaise. Et il dit, mais non, mais ça, c'est un truc de mec.
Voilà, ils les ont montrées, les photos, là, devant la cour d'assises ?
Oui, bien sûr, pour que les jurés se rendent compte que c'était des photos volées.
Ouais.
Et vous savez, je voulais vous dire, Christophe, Nathalie était une très belle femme. Elle avait 46 ans, mais les gendarmes n'ont pas tout de suite fait le lien entre le corps qu'on avait découvert dans la forêt et l'épouse de Marc, lorsque Marc est venu dire « ma femme n'est pas rentrée ». À ce moment-là, ils n'ont pas fait le lien parce que lui, il disait que sa femme de 46 ans n'était pas rentrée. Et ce corps qu'ils avaient découvert dans la forêt de Saint-Germain, ils pensaient que c'était le corps d'une femme beaucoup plus jeune.
D'accord.
Donc Nathalie, c'était vraiment une femme qui était très belle femme, blonde, les yeux bleus, un très joli corps. Et puis c'était une femme qui était toujours avenante, toujours souriante, toujours prête à aider les autres. Et c'est ce qui d'ailleurs lui a coûté la vie.
C'est vrai qu'il a eu une sale vie, et peut-être que c'est pour ça qu'il ne prend que 20 ans, parce que c'est un pauvre type. Mais je me trompe peut-être.
Oui. On a toujours du mal à savoir exactement où les jurés vont chercher les circonstances atténuantes. Mais en réalité...
C'est un pauvre type ou pas ?
Moi, je peux pas dire ça, parce que je l'ai trouvé particulièrement arrogant et pénible. Voyez ? Pénible. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, pénible. On lui dit qu'il y a du sang de Nathalie dans sa chambre. Il va dire, ah bah oui, mais parce qu'elle s'était blessée au doigt et puis elle était venue me voir dans ma chambre pour que je la soigne. Non, mais on nage en plein délire.
Oui, mais c'est un signe de bêtise, ça, Cathy Richard.
Oui, certes. Bon, pour autant, c'est ce type qui, pas un seul moment, vient dire, bah oui, c'est vrai, c'est vrai que j'étais fou d'elle. Et c'est devenu une obsession. Et pour moi, il fallait absolument que je me retrouve seule avec elle. Je pense que ce que les jurés ont compris, c'est que peut-être, en réalité, l'idée de l'assassinat n'existait pas. C'est-à-dire qu'il s'était créé un alibi. Mais je pense que, d'accord, mais son idée, c'était surtout d'essayer de se retrouver seule avec elle. Et puis de penser peut-être qu'elle aurait succombé à ses avances. Que sais-je. Enfin, il avait... aussi, il savait aussi qu'il y avait très 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 peu de chance, hein, parce que elle n'avait jamais succombé à ses avances, bien évidemment. Et puis surtout que elle lui faisait confiance, parce que ses avances jusque-là, elles étaient, il était un peu lourd, mais
ça la faisait rire, quoi.
Nathalie, elle a jamais pu imaginer que c'était à ce point-là.
À aucun moment au cours du procès, vous ne le sentez sur le point d'avouer.
Non. Non, non, on y croit, on espère, mais non, 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 non.
Pourquoi il n'avoue pas ?
Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire pourquoi il n'avoue pas. Moi, je pense qu'il a une... Quelque part, c'est quand même un type qui a une très haute opinion de lui-même, et jusqu'au bout, il a pensé que... qu'il pourrait rouler quand même les gens. L'idée d'avoir... Il y a des gens qui n'avouent pas, mais qui se murent dans le silence. Lui, il avait toujours réponse à tout. C'était pénible.
Mais ça se voit qu'il a une haute opinion.
Il faut quand même savoir que, lors de sa première audition, il va jusqu'à dire que Nathalie, c'est une amie de cœur et qu'il donnerait sa vie pour elle. Hein.
Ouais.
J'aurais donné ma vie pour elle. Voilà. Ouais. Enfin, bon, c'est... Et d'un autre côté, assez rapidement, il dit à la serveuse... De toute façon, c'est moi la dernière personne à l'avoir vue, alors c'est moi qui vais manger. Non, je veux dire, vous voyez, c'est vraiment très particulier. Je vous dis, cette façon qu'il a systématiquement de jouer la ruse, on va dire. De tenter la ruse, en tout cas.
Il faut qu'on pose la question du mobile, finalement. Spontanément, vous diriez quoi, vous ? Quel est le mobile de Patrice Chevalier dans ce crime ?
Il était obsédé par Nathalie. Il a voulu très clairement posséder Nathalie. Et Nathalie, avec le caractère qu'elle avait, je pense, ne s'est pas du tout laissé faire. L'idée sur laquelle on était parti au départ, quand on n'avait vraiment aucun élément du fait que c'était le soir où elle avait la caisse. Bon, la caisse, c'était 200 euros, Christophe.
D'accord,
200
ouais.
euros.
C'est bon, rien.
Voilà, ouais. On peut pas partir. C'est pas le Carlton, c'est que c'est vraiment rien, quoi. Donc non, je pense que et puis quand on retrouve ces photos prises, quand on voit sa façon de presque se délecter à raconter des aventures qu'il aurait eues avec elle, dont on sait qu'elles sont fausses, on se rend compte qu'il a vraiment, oui, il faisait une obsession sur elle. Et puis quand on connaît Nathalie un petit peu, on sait que Nathalie s'est pas laissé faire. Voilà.
J'ai une autre piste à vous proposer.
Jusqu'à la mort.
J'ai une autre piste à vous proposer, Cathy Richard. C'est le fait qu'elle allait le virer de l'hôtel.
C'est pas impossible non plus, mais il la connaissait quand même depuis suffisamment longtemps pour savoir que, quand même, avant qu'elle vire les gens, il fallait qu'il se passe cher et lourd. Dans ces cas-là, c'est qu'il y aurait encore eu des choses qu'on n'ait pas su. voyez. Mmh. Bon, il faut savoir quand même que le fils de Nathalie travaillait avec elle à l'hôtel. Hein, il faisait la cuisine à l'hôtel, il était présent à l'hôtel. Enfin, voilà, il s'est pas passé suffisamment pour qu'on puisse penser, voilà, elle allait le virer. Elle l'avait dit, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Et, oui. Et franchement, quand on connaissait Nathalie, avant qu'elle prenne la décision vraiment de mettre quelqu'un à la rue, fallait déjà que vraiment l'irréparable se passe. Mais bon, il y a peut-être cru quand même.
Oui. Vous voulez dire qu'elle avait un côté un peu assistante sociale, cet hôtel qui accueillait donc des cassos, comme disaient les gens du village. Ouais. Il y avait, au-delà de l'aspect commercial, il y avait quelque chose dans sa démarche d'un peu humanitaire?
Oui, c'est sûr qu'il y avait... Ah oui, c'est certain. C'est certain qu'il y avait quelque chose dans sa démarche. J'irais pas jusqu'à... Enfin, c'est pas le terme d'humanitaire qui collerait le mieux. C'était son hôtel, dedans, c'était sa famille, c'était... Voilà, c'était les êtres humains, c'était pas un hôtel de passage, c'était pas un hôtel où on venait 2-3 jours, vous voyez ce que je veux dire? Donc elle était là vraiment pour les gens, elle leur tendait la main et elle restait, elle savait que c'était important pour eux d'être dans cet hôtel. Donc, j'aime pas du tout le terme de cassos, mais c'est vrai que c'était des gens en difficulté, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour autant, c'était un hôtel très bien tenu, puis il y avait le restaurant de l'hôtel, il y avait le petit bar... Et il y avait beaucoup de gens du village qui étaient là régulièrement. Je veux dire, c'était pas non plus un hôtel qui était mal fréquenté. Mmh. C'était justement un hôtel qu'elle tenait de main de maître aussi. Mmh.
Alors, moi, il y a un passage que je trouve très intéressant, c'est qu'à un moment donné, il dit, le type qui a fait ça a laissé des traces partout, et notamment des traces ADN, faudrait vraiment être idiot pour laisser sa carte de visite, en gros, sur la scène de crime. Or, c'est ce qu'il a fait lui-même. C'est-à-dire que là, on voit toute la schizophrénie du personnage, quoi.
Toute son arrogance, j'allais dire. Hein. Toute son arrogance, parce que dès le début, il dit « c'est moi qui vais manger, je suis le dernier à l'avoir vue vivante, c'est moi qui vais manger ». Et puis il monte des scénarios complètement délirants, d'une histoire de règlement de compte en Normandie. Et on lui dit « mais donnez des noms !» Oui, ah non, jamais.
Le fameux pas, commanditaire, non. Oui.
Voilà. Mmh. En réalité... Il n'a jamais pensé que la ligne la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Hein. Mmh. Il pense toujours qu'il est plus malin que les autres en créant des histoires autour des histoires. Mmh. Mais d'un autre côté, alors il n'est pas plus malin, mais il est pénible. Parce que à chaque fois, au lieu de dire, bon, ben, ok, là, je rends les armes. Ah ben non, à chaque fois, il va aller tricoter une nouvelle histoire, bidouiller quelque chose de nouveau. Ben, ça n'en finissait jamais. Et pourtant, je veux dire... Franchement, on lui mettait preuve sur preuve sur preuve sous le nez, mais à chaque fois, il avait, entre guillemets, une bonne explication. Je mets plein de guillemets à bonne, parce qu'en fait, elles étaient mauvaises, ces explications. Mais lui, il était certain qu'il donnait des explications, voilà.
Est-ce qu'on a une idée des raisons de son déséquilibre sexuel? Parce que, bon, moi j'en ai connu des tordus, mais enfin des gars qui prennent des photos de la femme sur laquelle ils fantasment sous la table pour voir leur petite culotte...
Ça, malheureusement, il y en a quand même pas mal. Hein. J'ai encore un dossier récemment... d'une caméra mise dans des toilettes dans un hôpital. Enfin bon, c'est malheureusement. De toute façon, son ex-femme disait qu'effectivement, il était obsédé par le sexe. Et puis, alors visiblement, il avait cette amie là à qui il a demandé un alibi. Ouais. Mais bon, quand on connaît un peu l'individu, après, c'est toujours facile de réécrire l'histoire. Mais quand on sait après, quand on en entend parler son ex-femme. Et qu'on se dit qu'il était dans cet hôtel avec cette très belle femme qui était Nathalie, qui était une femme de caractère, mais une femme de cœur, il a focalisé sur elle, il était obsédé par elle. Il avait des réponses à tout, enfin, j'ai encore le souvenir. Monsieur, cette camionnette, quand vous dites c'est elle qui vous a déposé quelque part, c'est elle qui devait vous déposer à Poissy, et pourquoi est-ce qu'on retrouve des fils de votre manteau sur le siège conducteur? Pourquoi est-ce qu'on trouve votre ADN sur le pommeau de vitesse? Ah, parce que je la conduisais souvent, la camionnette, moi. Ouais. Oui, il me la prêtait souvent. Ouais. Ouais. Il y avait toujours quelque chose. Toujours.
Les mariés de la 2, on en parle au procès, parce que ça, c'est une scène extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une part de folie là-dedans. Le type, il enregistre une émission pour fantasmer sur les gonzesses. Et il prétend que quand il met en pause la vidéo VHS, il voit leur culotte.
Oui, ben c'était un... Il avait ce côté voyeur et il ressort des photos qu'il prenait de Nathalie. C'était, et je pense que ça, il le travaillait, si je puis dire, depuis longtemps, effectivement. Parce que, si, effectivement, il le travaillait déjà avec la télévision, avec Mais on retrouve cette même idée d'être plus malin que les autres. Vous voyez ce que, vous voyez cet esprit de dire, ah ben, moi je vais arriver à faire quelque chose de plus malin que les autres.
Oui.
Je vais enregistrer, puis je vais passer image par image. Vous voyez, moi je suis plus malin que les autres, je vais réussir à la prendre en photo. C'est ce côté qui est insupportable.
Donc en prison depuis 2010, condamné à 20 ans, il est conditionnable. À votre connaissance, il est sorti?
Non, il n'est pas sorti.
Il est dangereux ou pas? Parce que c'est la question qui va se poser au moment de sa conditionnelle. Non.
Je ne sais pas. Moi, je n'entrerai pas dans ce débat. J'ai quand même entendu une ex-femme qui venait pas dire du bien de lui, déjà, d'une forme de personnalité.
Oui.
Et puis, de toute façon, pour savoir comment se passe une demande de libération anticipée, la première chose qu'il faut savoir faire en matière de libération anticipée, c'est justement savoir donner une explication à son acte.
Et le reconnaître.
De le reconnaître et d'en donner une explication.
Oui.
Et je ne suis pas du tout certaine qu'à moins d'avoir beaucoup changé, beaucoup progressé, il soit prêt de le faire.
Comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec vous, maître Cathy Richard, l'une des meilleures avocates du barreau de Pontoise et aussi de Paris d'ailleurs. Merci infiniment, Cathy.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.